Vous écoutez La Croche-Oreille.
Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, un rendez-vous chaque dimanche avec la création sonore, les musiques inclassables et les artistes, bien sûr, qui inventent avec le son comme matière première. Une fois n'est pas coutume, mais c'est aujourd'hui que se termine la sortie printanière du mois Multi, le festival multidisciplinaire qui a lieu en février de chaque année et qui nous proposait cette semaine un pop-up d'activités inscrites dans le contexte du Printemps de la musique, ce festival piloté par le Conseil de la culture de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. C'est donc dans ce contexte inédit que j'accueille ce soir Simon Henry, un artiste multidisciplinaire qui réalise une résidence soutenue par les productions Recto Verso, et dont la démarche sonore et musicale est à tout le moins originale, singulière en tout cas, dotée d'un potentiel qui va vous ravir tout autant que moi. Formé à la musique classique, Simon Henry va développer au cours de sa formation et au début de sa carrière une approche artistique qui combine l'univers de la musique, les arts visuels et la poésie. Et je m'explique. Délaissant la partition musicale conventionnelle formée de notes gravées sur une portée, Simon propose aux musiciens et aux interprètes un ensemble de dessins à partir desquels ils font surgir une musique nouvelle, des tableaux sonores pour reprendre son expression. Il en résulte, dit-on, des propositions lyriques, bruitistes et intimistes. D'origine égyptienne, Simon Henry développe des thèmes sonores et musicaux qui sont grandement inspirés par l'univers de la poésie, certes, mais portés aussi par une envie de revaloriser la complexité des interactions entre ces identités multiples, québéco, égyptien, égyptienne, non-binaire, multi-amoureux, amoureuse. Simon Henry a présenté cette semaine le fruit de son travail dans une exposition de ses tableaux sonores de son projet d'opéra Le Désert Mauve. C'était présenté à la Charpente du Fauve, le nom de l'ancienne Maison Jaune sur la rue Christophe-Colomb. Simon a donné une conférence en téléprésence vendredi autour des nouveaux enjeux identitaires et participé enfin au cabaret du mois multi présenté dans le cadre du Printemps de la musique. Ça se passait hier, 23 mai. Sur ce, j'ai eu la chance de rencontrer Simon Henry durant son passage à Québec. L'artiste nous raconte la singularité de sa vision artistique, nous présente son projet d'opéra, Le Désert Mauve, et nous manifeste son engagement à l'égard de la musique, de la poésie, des arts visuels et des arts sonores. Alors, Simon Henry, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer.
Merci beaucoup.
Simon, avant d'aborder ta participation à cette sortie printanière et inédite du mois multi, j'aimerais t'entendre sur ta démarche artistique et sonore au sens large, une démarche qui m'apparaît très singulière, inspirée par la poésie et les arts visuels notamment, au sens où tu proposes aux musiciens, interprètes, une partition non pas composée de notes, mais composée essentiellement de dessins et de signes graphiques, appartenant tout ça à l'univers des arts visuels. Quelle a été la genèse de cette belle démarche artistique?
En fait, ma démarche s'est construite au fil des années un peu par dévoilement plus que par mettre des briques sur des briques, je pense. On dirait que je découvre à mesure que j'avance ce qui a toujours été là, dans le sens où, à la base, j'ai une formation en piano classique. Puis, comme j'ai une très mauvaise mémoire, ça a été un gros enjeu pour moi quand j'improvisais d'essayer de rejouer la même chose. Fait que j'avais des tendances à gribouiller pour me rappeler un peu ce que j'avais fait la veille, là. Puis, en avançant, ben j'ai commencé à peaufiner ces dessins-là, à les raffiner, puis je suis passé du piano à la composition. Puis, en arrivant en composition, ben je passais toujours par le dessin pour écrire des partitions. Puis quand j'essayais de mettre des dessins, ben souvent mes comme tel dans la partition, ben les professeurs m'encourageaient à travailler le dessin, mais c'est pas tant. Puis je travaillais beaucoup à transcrire ces choses-là. Généralement, il y avait une espèce de clash qui venait du fait que ce que je cherche dans ma musique avant tout, c'est la communication avec les interprètes dans un rapport un peu chorégraphique, dans un rapport de réelle collaboration. Puis ce que je cherche aussi, c'est une grande organicité, une musique qui soit très proche de la nature, là, des sons qui nous entourent, là. Puis c'est à la toute fin de mes études en composition qu'il y a un prof qui m'a dit, ben, tu sais, Simon, tu me parles depuis que je te connais de dialogue avec les interprètes, d'organicité, de naturel dans le mouvement, mais en fait, tes partitions, vu que c'est des transcriptions, sont tellement complexes que tes interprètes sont juste sur le bout de leur chaise à essayer de jouer toutes les... Toutes les notes étaient affectées de quart de ton, les rythmes étaient des triolets dans le quintolet du septolet, là. Puis le prof m'a dit, ben, tu sais, Simon, peut-être que tu devrais améliorer tes dessins puis les faire jouer par les interprètes. Puis ça a été d'un tel naturel. La première fois que je me suis assis en répétition avec des musiciens avec juste les dessins, notre communication allait tellement mieux. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, quand je dessinais des sons, pour moi, ça n'a jamais été des dessins. Je suis totalement incapable de dessiner un être humain, mettons, ou quelque chose de figuratif, là. Je veux dire, j'ai essayé un peu, mais c'est assez tragique, là, comme résultat. Mais pour moi, c'est tellement du son directement que c'est ça. Il y a une espèce de naturel qui s'est placé.
Dis-moi, Simon, comment se fait l'approche auprès des interprètes et des musiciens, considérant le caractère assez inattendu de tes partitions graphiques et visuelles, sachant d'autre part que les musiciens sont tout de même formés à décoder la partition musicale traditionnelle. Il y a des automatismes qui s'installent vis-à-vis ce langage musical très codé. Alors que tu leur proposes un projet totalement libéré de la codification.
Ça, c'est la magnifique illusion que j'aime entretenir dans le résultat une fois sur scène. Mais c'est pas vraiment ça qui se passe derrière les portes de répétition. En fait, mes partitions sont vraiment basées sur des réflexes de lecture de partition assez standard. En répétition, en général, avec des nouveaux interprètes, le premier 15 minutes est toujours un peu déstabilisant parce que, justement, les interprètes ont l'impression de pas nécessairement avoir la formation pour jouer ces partitions-là. Ça a été le cas, par exemple, quand j'ai fait jouer une partition d'une heure par l'Orchestre symphonique de Québec, qui était exclusivement un dessin, puis il y avait des éléments de notation, mais ça, en tout cas, c'est un projet assez complexe, là, mais c'est ça, le premier 15 minutes est toujours un peu ardu parce qu'il y a une communication à établir. Mais au bout du compte, les codes que j'utilise dans mes dessins sont très intuitifs, je pense, pour une bonne proportion d'êtres humains, en tout cas. Par exemple, quand je fais un trait qui est haut dans une page, c'est un son plus aigu. Quand c'est un trait plus bas, c'est plus grave. Les couleurs, souvent, se rapportent à des instruments. Plus c'est foncé, plus c'est fort. Plus c'est pâle, plus c'est doux. Donc, c'est pas des choses qui demandent... Une fois que c'est nommé, c'est pas des choses qui demandent un réapprentissage de réflexes. Tant que ça.
Bon, Simon, même s'il y a une relative codification dans tes tableaux sonores, tes partitions graphiques, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un univers proche de l'improvisation? Quand on pense, par exemple, à l'attente assez bien définie du compositeur qui place d'habitude ses intentions, son projet sur la partition traditionnelle, qu'est-ce que t'en dis?
En fait, j'ai cessé d'utiliser le mot improvisation à un certain moment parce que ça amenait, j'ai réalisé que personne entend, à peu près personne avec qui j'ai travaillé en tout cas, entend le mot improvisation de la même façon. Parce que, évidemment, pour moi, il y a une part de quelque chose qui, selon ma définition à moi, correspond à l'improvisation. On s'entend. Mais les dessins que je fais sont, pour moi, excessivement précis sonorement. J'ai encore de la difficulté à utiliser le mot synesthésie parce que je suis pas sûr de comprendre exactement ce que ça implique. Je suis pas sûr si c'est exactement ça qui se passe dans ma tête. Mais quand je dessine une tâche, tous ses contours, toutes ses nuances, toutes ces nuances de couleurs, pour moi, c'est... Ben, je le fais en répétition. Je prends... souvent, je vais le chanter, mais pour moi, c'est exactement ce que je vois. Je vais le chanter, puis c'est ça que j'entends. Par contre, ce que je trouve moins intéressant, c'est de pas donner tous les codes, toute cette précision-là aux interprètes pour justement que les interprètes puissent investir mes dessins puis utiliser leurs propres outils pour interpréter ces dessins-là. Puis du coup, leur donner une marge de manœuvre, par exemple, à l'électronique, de se dire, ben moi, j'ai pas cette spécialisation de savoir tout ce qu'on peut faire avec le matériel de XYZ performeuse électroacoustique. Ça fait que moi, je leur présente mes dessins, je peux leur chanter tout ce qui est écrit, mais j'adore quand il ou elle me propose des choses, puis je me dis, oh my god, j'aurais jamais pensé à ça. Puis c'est peut-être ça qu'on peut appeler la part d'improvisation dans mes dessins. Puis j'accueille ces propositions-là, puis même si des fois ça fait un clash avec le dessin, ben tant mieux.
Dis-moi, Simon, parlons maintenant de l'axe poétique de ton travail de composition. Il y a dans la construction de ton univers artistique une importance qui est apportée à la voix, au texte, à la littérature en général et à la poésie.
Mm-hmm. Oui.
Québécoise, notamment. J'aimerais ça t'entendre à ce propos.
Je pense que je répondrai à ça en passant par un petit chemin de traverse. Ce que j'ai fini par réaliser qui était la base de mon travail, conceptuellement en tout cas, c'est l'idée de musique comme situation. C'est une expression que je vole au compositeur allemand Helmut Lachenmann, mais que je pense qu'il y a plein d'autres compositeurs avant lui qui, sans le nommer comme ça, l'ont exploré. Mais ce que j'ai l'impression de faire comme personne, comme créatrice, c'est de créer des contextes. De choisir très spécifiquement, je pars jamais du résultat sonore que je veux entendre, je pars toujours de, bon ben, avec qui je veux travailler pour mon prochain projet, c'est quoi l'univers poétique qui est sous-jacent, où est-ce que ça va être joué, avec qui ça va être joué, qui vont être nos partenaires, qui va être le public, pour moi ça fait aussi partie, qui va être dans la salle, ça fait partie de mes préoccupations dès le début, puis du coup, l'univers poétique justement, est toujours sous-jacent la question de qu'est-ce qui est proposé au niveau du sens. Pour moi, c'est fondamental. Ça fait que même mes pièces complètement instrumentales, il y a presque toujours un texte poétique qui est sous-jacent ou un ensemble de textes poétiques qui sont sous-jacents. Des fois, c'est mes propres textes. Des fois, c'est des textes de personnes que j'ai lues. Très tôt, ça a été Nicole Brossard. Ma première pièce pour orchestre était très liée à une phrase spécifique de Nicole Brossard qui m'avait beaucoup impressionné, allumé, parlé. Puis, par contre, c'est venu beaucoup plus tard que j'ai assumé de manière plus frontale l'espèce de triumvirat d'inclure que, qu'en fait, mes œuvres étaient vraiment transdisciplinaires en incluant le texte.
Thank you.
Voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste Simon Henry. Je vous reviens après un bref battement promo. Restez des nôtres.
C-K-R-L 89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille.
Rebonsoir tout le monde, c'est La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h sur les ondes sonores de CKRL. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant ou presque sur le site. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Cela dit, j'ai rendez-vous ce soir avec l'artiste multidisciplinaire Simon Henry, qui arrive à combiner de manière magistrale la création visuelle, la musique, la poésie et l'art sonore. Développant ses thèmes à partir d'écrits poétiques, on pense évidemment à son projet intitulé « Le désert mauve » qui est inspiré du roman-essai de Nicole Brossard. Simon inspire et dirige ses musiciens et interprètes sonores avec des partitions musicales imaginées à partir de dessins plutôt que d'utiliser les habituelles portées. On dit que ses œuvres témoignent d'un désir d'abolir les rapports d'autorité en création et d'établir un vrai travail de proximité avec les interprètes. Ces partitions demandent non seulement une grande précision de la part des musiciens et musiciennes, mais appellent des techniques de jeu très audacieuse. Simon tient d'ailleurs à partager son regard à la fois curieux, généreux et intuitif. Outre sa musique, son premier recueil de poésie intitulé « Son corps parlait pour ne pas mourir » ainsi que son premier livre de partitions graphiques « Voir dans le vent qui hurle les étoiles, rire et rire » sont parus en 2016 aux éditions de La Tournure. Simon mène en outre de nombreuses recherches et ses écrits ont été publiés sur de nombreuses plateformes. Voilà, j'ai rencontré Simon dans le cadre de ses prestations, dans le cadre des activités printanières du Festival international d'art multidisciplinaire, le Mois Multi, qui participait cette année pour la toute première, je crois, au Printemps de la musique. Alors, je propose donc que l'on poursuive cette conversation avec Simon Henry. Cette combinaison du poétique, du visuel et du sonore, Simon, nous amène à ce projet que tu développes depuis quelque temps. Ça s'intitule « Le désert mauve », un opéra, un projet d'opéra inspiré du roman de Nicole Brossard qui demeure un incontournable de la littérature du Québec. Alors, dis-moi, comment arrive Nicole Brossard dans ton univers?
Nicole Brossard est arrivée dans mon univers par des amis qui m'ont proposé de la lire il y a presque 15 ans maintenant. Puis j'ai été tout de suite happée par son univers, mais en le comprenant pas trop parce que je possédais pas nécessairement les codes littéraires, poétiques. On oublie souvent en musique, en poésie, qu'il y a rien d'universel justement en musique et en poésie, là. Que ça prend des codes pour apprécier pleinement Brahms, tout comme ça prend des codes pour apprécier Émile Lelligant. Puis, mais j'avais cette intuition qu'il y avait quelque chose chez Nicole Brossard qui parlait directement à quelque chose de plus profond en moi que je savais pas nommer à l'époque. Puis je suis tombé sur Le Désamour en 2011. La poétesse Marie-Ève Maréchal qui m'a suggéré cette lecture-là, puis qui m'a dit que c'était absolument incontournable. Puis comme beaucoup de personnes qui sont tombées sur Le Désamour, ça m'a habité, mais à un niveau que j'aurais jamais pu imaginer. Entre autres parce que je m'étais jamais reconnu à ce point-là dans des personnages dans la littérature en général. C'est sûr qu'à la base, moi, je suis une personne très... j'ai beaucoup d'éléments de différence, là, étant une personne non-binaire, étant d'origine égyptienne. En tout cas, toutes sortes de choses qui s'accumulent puis qui font que ben, quand je regarde une série normale, entre guillemets, à la télévision, je me reconnais à peu près jamais dans les personnages ni dans les univers. Je suis polyamoureux, polyamoureuse, donc pour moi, c'est totalement... Je sais pas, c'est vraiment abstrait pourquoi les gens dans les films se battent tout le temps pour des questions de jalousie. Puis Dieu sait qu'il y en a des films de cet ordre-là. Mais c'est ça, quand je suis tombé dans l'univers de Nicole Brossard, les personnages étaient justement pas dans ces dynamiques-là, pas dans ces... Je veux dire, ça reste que c'est des personnages, c'est des femmes lesbiennes pour l'essentiel de ces personnages dans Le Désamour, et que je ne suis pas une femme lesbienne, mais c'était ça, clairement, pour la première fois de ma vie, je pouvais me représenter dans leurs univers.
Simon, avant de poursuivre sur ton projet d'opéra Le Désamour, on va écouter un extrait. C'est un extrait tiré du prologue du Désamour.
Thank you.
Simon, il y a dans tes propos l'idée de créer de grandes zones de liberté dans les interactions qui relient les artistes, le public et la création artistique. Est-ce qu'on peut dire que ton projet d'opéra sonore et musical, Le Désert Mauve, en est inspiré? En d'autres termes, qu'est-ce qui distingue ce projet, Le Désert Mauve, de tes autres projets?
Ma réponse sera un peu multiple. Il y a un aspect assez caractéristique de mes autres projets qui est inscrit dans l'ADN du Désert Mauve. C'est l'ampleur du projet. J'ai tendance à toujours travailler sur des œuvres qui me prennent des années à monter. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez emblématique dans ce projet-là de ce que je fais depuis 15 ans dans ma pratique. Pour le Désamour, j'ai fait un premier 20 minutes il y a 2 ans. Cette fois-ci, à Québec, on présente 1 heure. L'an prochain, on va présenter dans d'autres cadres des durées un petit peu plus grandes qui vont ensuite être raccourcies pour obtenir un objet qui va ressembler à une proposition finale. Mais je travaille toujours un peu comme ça. Puis chaque version, pour moi, est un tout en soi, est une finalité en soi. Là. Puis l'idée... c'est à la fois de se donner la marge de manœuvre de faire évoluer un univers puis de le faire macérer, de le faire vieillir. À la fois de se donner, c'est très pragmatique, là, de se donner les moyens dans le contexte québécois actuel de rêver à des projets qui dépassent la pièce de 10 minutes pour un ensemble de 4 musiciens. T'sais. Parce que mon ambition éventuelle, c'est d'avoir un opéra installatif de 7-8 heures où le public va déambuler, puis les interprètes vont aller et venir avec une installation riche et complexe. Je pense que j'ai l'ambition de me rendre éventuellement à ce but-là, mais je suis pas pressé. T'sais, si ça me prend une décennie de plus, ben, ça prendra une décennie de plus. Puis je suis déjà très, très contente de là où je suis avec le projet. Fait que là-dessus, c'est assez... Le Désamour est assez caractéristique de mes autres projets aussi qui fonctionnent un peu comme ça. Mais là où c'est différent, il y a 2 éléments principaux qui sont différents. Le premier, c'est de travailler avec l'univers poétique de quelqu'un d'autre à ce point-là. Investir l'univers de Nicole est pour moi, c'est ça, tout un défi. Puis ça me sort de ma zone de confort. Puis l'autre aspect qui est assez différent dans ce projet-là par rapport à mes autres projets, en fait, qui est très différent, c'est que je travaille avec un luthier numérique, Alexandre Burton, qui est en train de fabriquer sur mesure un instrument de remixage de mes partitions graphiques en temps réel. Puis, ça me sort énormément de ma zone de confort, mais en même temps, c'est très excitant. C'est une évolution un peu naturelle de mon travail. Jusqu'à aujourd'hui, toutes mes partitions qui durent 1 heure ou 10 minutes, c'est un montage vidéo plus ou moins complexe de partitions que j'ai dessinées à la main, que j'ai numérisées, puis que j'ai figées avec une feuille de notes pour les interprètes qui leur dit à 6 minutes 13, entrée du basson, tu joues la tache rouge, puis etc., etc. Mais là, il y a certaines portions qui vont être l'essentiel de ce qui est pour la voix est précomposé, mais l'essentiel de ce qui va être donné à jouer aux instrumentistes, je vais le remixer en temps direct grâce à l'outil d'Alexandre.
Le désert est indescriptible. Pourtant,
Simon, tu abordes cette question cruciale dans ton parcours artistique, cette question des identités multiples, changeantes, ces identités fluides, là, qu'il s'agisse de l'identité de genre, l'identité sociale ou sexuelle. Ton parcours de vie en est un exemple. Et c'est d'ailleurs l'objet de la conférence que tu auras donnée là, au moment de la diffusion de notre émission. Tout ça a des ramifications dans le monde de l'art. J'aimerais que tu me résumes tes réflexions d'artiste à ce sujet.
Le décalage temporel a ceci de fascinant que au moment où on se parle, je n'ai pas encore écrit ma conférence, donc je suis pas sûr à 100% de ce que je vais répondre, mais pendant, je pense, les 10 premières années de ma carrière de compositeuriste, j'ai pas tant que ça réfléchi à ma posture quand je compose de la musique. C'est juste à un certain point, j'ai commencé à réaliser qu'il y a certains contextes qui m'amenaient à prendre des décisions en fonction de ce que je pensais qu'on attendait de moi. Puis j'ai décidé à un certain point dans mon travail de me réapproprier ces attentes-là, puis de travailler sur mes propres attentes à moi. Puis ça rapporte, je pense, les deux axes principaux, c'est mon identité de genre et mon identité culturelle, parce que je suis une personne métisse, égypto-québécoise. Puis dans toute ma formation, j'ai jamais eu une oreille qui, en bon québécois, fitait avec la formation. Mais comme j'ai des grandes aptitudes d'adaptation, ben j'ai pu me faufiler, avoir mon bac, mes maîtrises dans le système actuel d'éducation musicale, mais je me sentais toujours à côté de la traque. Même il y a plusieurs professeurs qui m'ont dit pendant ma formation, avec une oreille comme la vôtre, vous ne serez jamais musicien. Puis moi je me disais, ben c'est juste parce que je suis poche, tu sais. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que avec le renforcement positif, je pense, de gens autour de moi que j'ai eu la chance de croiser, que c'est pas nécessairement que je suis poche, c'est juste que j'ai une oreille qui est assez différente. J'entends des choses, j'ai un raffinement de l'oreille qui est juste différent. Est-ce que ça tient de mon identité de genre, de mon identité culturelle, de tel ou tel aspect de ma vie? Ça, c'est des fils que je trouve que c'est pas nécessairement à moi de le démêler, mais j'ai l'impression que ça tient entre autres à ces choses-là. Tu sais, j'ai une oreille très raffinée pour les bruits. Pour moi, par exemple, ce qu'on appelle les bruits blancs, je veux dire, mon oreille a été beaucoup informée, nourrie par le son du fleuve qui coulait pas loin d'où j'ai grandi. Pour l'oreille tonale, pour moi, ça a été tout. Il y a rien de naturel pour moi dans l'écoute tonale ou l'écoute rythmique. Suivre un beat, pour moi, c'est absolument pas naturel. Mais suivre une certaine pulsation qui est plus proche de, encore une fois, la nature, c'est vraiment plus intuitif pour moi. Puis aussi le rapport à la durée. J'ai jamais compris qu'une pièce de musique, qu'on puisse s'exprimer dans une pièce de musique en 5 minutes ou en 10 minutes ou en 3 minutes. C'est des formats qui m'échappent complètement. Je comprends pas que formellement on puisse vivre dans ces durées-là. C'est pour ça aussi que j'écoute juste des albums complets. Je comprends pas vraiment d'écouter une seule pièce d'un album. C'est pas un jugement de valeur du tout envers les autres oreilles. C'est juste, il y a un moment dans ma vie où j'ai réalisé, ah ben moi, mon oreille fonctionne dans la durée. C'est pour ça que ma durée de prédilection, c'est 50 minutes, parce que ça me prend ce temps-là pour sentir qu'il y a un souffle qui correspond à mon oreille.
Simon, c'est extrêmement intéressant. On pourrait continuer comme ça de longues minutes, mais l'émission s'achève malheureusement. Tu viens de participer à de nombreux volets, de la sortie printanière du mois multi, tout ça dans le contexte de l'édition 2021 du printemps de la musique ici à Québec. Dis-moi, qu'est-ce qui s'annonce pour toi dans les prochaines semaines sur le plan de la création, sur le plan de la diffusion?
La question de qu'est-ce qui s'en vient est et c'est ça, très 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 pertinente. Avant que la pandémie frappe, je m'en allais vers une fin de cycle avec trois gros projets qui devaient se terminer. Pour moi, 2020 était une année de fin de chapitre. Donc, je finissais Les Amours, j'ai créé une pièce qui s'appelle Je suis calme et enragé de 50 minutes pour orchestre de jeunes, quatre voix, des solistes, un projet sur lequel aussi je travaillais depuis genre presque une décennie, puis un autre projet qui m'a été commandé par l'Ensemble contemporain de Montréal, un autre projet d'une heure avec ma poésie qui venait avec un livre que j'ai publié l'an dernier. Bref, tout ça devait se terminer, puis j'avais une grande hâte, en fait, de voir qu'est-ce qui venait après. Puis la pandémie est venue vraiment brasser les cadres de tout ça. Ça fait que, pour l'instant, je suis vraiment dans essayer de... J'ai fait le choix pendant la pandémie de ne pas rayer de la carte mes projets ambitieux, d'accepter que ça se termine un peu, que ma fin de chapitre se termine un peu en queue de poisson, mais je veux quand même mener à bout ces trois grands projets-là. Donc, pour l'instant, je travaille comme de personne dans ma position à essayer d'aboutir malgré la complexité du moment. Puis en même temps, je vois une ouverture du côté, puis une reconnaissance du côté du monde littéraire qui m'encourage beaucoup. C'est ça, j'ai eu cette semaine des échos extrêmement positifs par rapport à mon dernier recueil. Puis j'ai cette envie d'écrire mon premier roman dès que je vais avoir fini. Je pense que mentalement, j'ai besoin de finir mes trois gros projets avant de passer à autre chose, mais on dirait que mon élan, ce serait d'écrire mon premier roman après, peut-être de retourner aussi à quelque chose de plus intime, de prendre une pause un peu, de travailler à monter des projets à 175 personnes de 3 heures tentaculaires avec des expos et des conférences. Donc, voilà.
Alors, Simon, grand merci de m'avoir accordé cet entretien. J'espère qu'on pourra se revoir dans la région de Québec très prochainement avec tes projets de poésie visuelle, sonore et musicale.
J'ai une super belle relation avec la ville de Québec qui m'accueille depuis 2016 dans des projets vraiment très ambitieux. Ça fait que j'ai très hâte à la suite. Là. Longue vie à la vie culturelle de Québec est si foisonnante. Et... Puis merci de m'accueillir à ton micro. C'est un grand plaisir.
Voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir sur les sonorités composées par l'artiste multidisciplinaire Simon Henry. Grand merci à Simon de nous avoir permis l'écoute d'extraits de ses œuvres et de m'avoir accordé cet entretien que vous retrouverez en reprise sur le site La Croche-oreille, facilement repérable sur la toile. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.